Bienvenue chez vous, c'est l'émission Cuisine Gastronomie et on met en avant les acteurs du territoire et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité mais deux invités, Julien Saint-Palais de l'huilerie Oléolande. C'est comme ça qu'on dit, hein.
Oléande, pardon.
De Mugron et Éric Labasse, qui est aussi administrateur de l'huilerie. Mais pas que, puisque producteur de tournesol et plein d'autres choses. C'est ça, Éric.
C'est ça.
Messieurs, bonjour. On va rentrer un peu plus dans le détail tout de suite avec vos rôles, avec vos structures, justement. On va les faire découvrir. Julien, on va commencer par vous. Dites-nous en plus un petit peu sur vous et sur votre structure.
Donc moi, bonjour déjà. Donc Julien, moi je suis le directeur de l'huilerie Oléande, Cuma d'Ourprotéol. Je suis en poste depuis 2012, depuis la création de la structure.
D'accord.
Voilà, j'ai commencé moi comme commercial. Donc l'idée,
ah oui.
Voilà, c'était de développer, de trouver des voies de commercialisation par rapport à nos huiles.
Ouais.
Et puis après, avec l'évolution des choses, je suis directeur maintenant.
D'accord. Combien de salariés peut-être?
Donc, à ce jour, on a 5 salariés et il y a un peu plus d'une centaine d'agriculteurs adhérents.
D'accord. Comme ça, on a un petit peu posé le cadre. Et vous, Éric, vous êtes à la fois avec Julien et puis à la fois, vous avez votre activité à côté, c'est ça?
Alors moi, je suis paysan à Salon-les-Mines et je fais partie des 30 adhérents fondateurs de la coopérative. Au tout début, de la Cuma. Et voilà, je suis producteur de kiwi aussi, et foie gras, et tournesol, colza, etc.
Ouais, donc des journées bien remplies.
Oui, accessoirement, oui.
C'est ça, justement. On va en discuter ce matin. En plus, vous nous avez apporté pas mal de choses. On va en parler, mais juste, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous nous avez apporté rapidement chacun?
Donc, alors on vous a apporté notre gamme d'huiles pour vous présenter un petit peu ces produits. Donc, ce sont des huiles de première pression à froid. Donc, on D'accord. va y revenir après.
Ouais.
On a amené également des échantillons de tourteaux, les résidus de trituration, qui sont récupérés par une bonne partie de nos agriculteurs éleveurs qui l'utilisent dans l'alimentation du bétail.
D'accord, ok. Alors ça, on va éviter de goûter quand même. Hein,
parce que ça... Oui, bon, là, j'avoue.
Ça va faire un petit peu lourd. Autant d'habitude que ça soit les burgers, les confitures, le foie gras, à 10h, ça va. Autant l'alimentation pour le bétail, on va...
Si vous voulez manger du burger, il vaut mieux qu'il soit nourri avec nos tourteaux.
Exactement. Oh, cette transition est magnifique.
Magnifique.
Parfait, parfait. Il est 10h06, vous êtes sur France Bleu Gascogne et on va continuer de discuter avec nos deux invités dans Bienvenue chez vous.
Bienvenue chez vous sur France Bleu Gascogne.
Rien que de l'huile, j'ai envie de vous dire, mais ou presque, puisque du coup on va en discuter ce matin avec Éric et Julien dans Bienvenue chez vous. On a plein de choses là justement par rapport à l'huile et on a le produit brut en plateau, on a la récolte. Comment ça se passe pour faire de l'huile par exemple? Qui veut se lancer?
Et alors, je prends le...
Oui, vas-y.
Donc pour faire de l'huile, bon déjà, ça passe par nos agriculteurs, ça passe par les semis, justement,
ouais, ouais.
Ils sont en plein champ, en plein travail actuellement.
D'accord.
Certains ont commencé même à semer pour la partie tournesol. Donc ça démarre voilà, par de la culture, par après de une passage de récolte.
Alors ça met combien de temps cette déjà toute la partie culture jusqu'à la récolte?
Alors le tournesol, il est semé, on va dire là, avril-mai,
okay,
en général, et c'est récolté au mois de septembre-octobre.
Ok.
Et le colza, les semis, c'est au moment, à partir du mois d'août, août-septembre, que se font les semis. Par contre, voilà, ça reste très longtemps dans le champ parce que ça va être récolté fin juin, début juillet.
Ah oui, de l'année d'après,
ouais,
en fait.
C'est
d'accord.
Ça. Donc, culture très, très longue. Voilà, donc là, bientôt, on va être sur les récoltes du colza.
Et on récolte, et ensuite, du coup, sur le reste du process pour aller créer l'huile, justement.
Oui, alors pour la suite du process, donc après, ils apportent à l'huilerie, l'ensemble de nos agriculteurs viennent livrer à l'huilerie.
Ouais.
Donc il y a une phase de triage qui est très importante pour pouvoir conserver nos graines et puis qu'elles soient la plus pure possible. C'est ensuite mis dans des silos ventilés. Et puis, au bout de 2 mois, on peut commencer à transformer la graine. Alors, la transformation, ça se passe par une presse. C'est un genre de vis sans fin. Et donc, on va écraser la matière, obtenir d'un côté l'huile brute avant filtration. Et après, les déchets, c'est les fameux résidus de trituration qu'on appelle tourteaux. Et là, c'est récupéré par nos éleveurs.
D'accord. Rien ne se perd, tout se transforme, Eric. C'est un petit peu ça, en fait.
Tout à fait. Et si on reprend l'historique de la Cuma, le tout début était de la production de tourteaux, justement. Puisque pour éviter d'acheter des sojas OGM ou étrangers, la piste pour fabriquer des matières azotées était des tourteaux. Et donc, on s'était dit, tiens, on va pouvoir faire de l'huile, mais ce qui nous intéressait davantage était le tourteau. Alors aujourd'hui, les deux sont intéressants,
ouais.
Mais l'huile s'est bien développée, c'est un produit noble et on est content de la produire. Mais au tout démarrage, c'était quand même la recherche de matières azotées, de matières protéines, avec les tourteaux.
D'accord.
Quoi, tout évolue.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'élevage, que ce soit les vaches, les canards, les poulets, beaucoup de nos collègues utilisent du tourteau de colza ou du tournesol mélangé à du maïs pour faire un aliment fermier.
Ouais, et puis peut-être plus sain que des aliments transformés, par exemple.
Au moins, vous y mettez ce que vous avez produit.
Oui, voilà.
Ce qui est déjà pas si mal.
Il n'y a pas de surprise.
Voilà, il n'y a pas de surprise.
Sur ça. L'huilerie, ça a été créé en 2012, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui, 2012. Alors, réellement, les premières pierres, le temps de faire les travaux, c'est 2011. Mais réellement,
officiellement,
l'activité avait démarré en juillet 2012.
D'accord. Et alors, vous, Eric, vous êtes l'un des administrateurs de l'huilerie. C'est ça ?
C'est quoi ce rôle,
du coup ?
Ben, très, très, très régulièrement, on se réunit, on aide.
Pour voir l'apéro ou c'est pour.
Alors, non, pas tous les jours, pas tous les jours, hélas. Des fois, on travaille un peu quand même.
Quand même.
Et Julien nous donne des informations sur les marchés, la gestion de la boutique, quoi, en gros, sur les problèmes techniques et autres. Et on est un petit groupe, là, à servir d'assistance à Julien quand on peut, ou à participer à de la mise en place de matériel, ou de recherche de clients. Enfin, on essaye de travailler en petit groupe, et c'est en ça que la Cuma Oléande est quand même très, très familiale, on va dire ça comme ça. C'est peut-être suranné de dire ça, c'est pas une famille, mais c'est un groupe de paysans avec Julien et 2 ou 3 salariés qui sont dans le groupe. C'est très très humain comme boutique, quoi.
Voilà, et puis il y a cet aspect solidarité qui est aujourd'hui indispensable pour vivre et survivre dans le milieu de l'agriculture, j'imagine.
Ben voilà, donc nous, ce qu'on essaye de mettre à l'avant, c'est que on n'est pas un groupe international, bien au contraire, on est très 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 local. Et il y a un de nos hommes politiques qui disait qu'il vaut mieux être à portée de claques de temps en temps. Alors nous, on va éviter les claques.
Oui, si on peut.
Ça, on n'aime pas trop. Mais par contre, c'est vrai que Julien parlait de la mise en place des cultures, par exemple. On essaye de faire des commandes groupées pour les semences, pour donner des pistes de travaux à nos collègues. Et on fait des réunions régulièrement pour aller voir sur les champs qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, où sont les problèmes, où sont les avantages. Bon, on essaye d'avoir cet entretien local et surtout cette proximité avec les collègues, quoi.
Et puis ça permet de résoudre les problèmes si jamais il y en a, beaucoup plus facilement aussi.
Tout à fait.
Très peu d'intermédiaires et ça va très très vite.
On
continue d'en discuter ce matin de tout ça, de l'huile, de la Cuma, de toute cette solidarité agricole qu'on a dans les Landes, et on revient juste après ça.
Bienvenue chez vous sur France Bleu Gascogne.
Et nous sommes dans Bienvenue chez vous pour discuter d'huile, tout simplement, et pas que, puisque nous avons également du tourteau. On a tout ce qu'il faut en plateau actuellement. Ça se déguste facilement, l'huile. On peut en prendre comme ça à la petite cuillère. On arrive à le goûter et vous faites comme ça pour pouvoir savoir si c'est une bonne huile, d'une mauvaise huile ou pas.
Oui, oui, effectivement. Alors nous, ce sont des huiles premières et unique pression à froid.
D'accord.
Donc c'est pressé mécaniquement. Il n'y a aucun produit chimique du utilisé.
Ouais.
Et c'est des huiles, comme on dit, de caractère, comme des huiles d'olive. La tournesol a un goût de la pipasse et de même on retrouve un peu de pignon de pain. Et la colza a un goût de noix, noisette. Et c'est vrai qu'elle a, la colza, beaucoup de succès en assaisonnement.
D'accord. Alors justement, j'allais vous poser la question, comment on utilise l'huile ? Là, ce que vous avez rapporté un petit peu, plutôt cuisine, plutôt d'autres activités ?
Alors, la colza, c'est principalement, même uniquement un assaisonnement.
Ouais.
Parce que sur des huiles vierges comme ça, le point de chauffe est bas, du coup...
Oui, dès qu'on le chauffe, en fait, on perd toutes les...
Oui, oui, alors automatiquement, même toutes les huiles. C'est vrai que le fait de les chauffer, surtout des huiles vierges, l'idéal, c'est de les consommer à froid.
Ouais.
Bien que après le tournesol, nous, notre huile de tournesol, on peut l'utiliser en assaisonnement, cuisson, voire aussi friture.
Ah oui.
On peut, ouais. C'est, elle est polyvalente.
Ok. Donc, oui. Et on a deux types d'huile. On a les bio et on a les conventionnelles, c'est ça ?
C'est ça. On a deux gammes, en fait, parce qu'on a des agriculteurs adhérents en bio ou en conventionnel. Donc, on a une gamme conventionnelle sous la marque Oléand et la gamme bio qui est sous ma petite récolte bio.
D'accord, ok, comme ça c'est clair. Et vous êtes de quelle famille, vous, Eric ? Bio ou conventionnel ?
Conventionnel. D'accord. On a la possibilité dans l'intérieur d'Oléand de pouvoir séparer les deux productions.
D'accord, ouais.
On a des systèmes de suivi et d'autocontrôle où on arrive à bien faire la part des choses. Et on a des marchés pour les deux produits.
Bah c'est ce qu'il faut de toute façon. Et de toute façon, le fait d'être bio aussi, j'imagine qu'il y a des dépenses qui viennent s'ajouter à un chiffre d'affaires classique.
Alors oui, il y a des dépenses sur la culture déjà, d'une part, parce que les exigences du cahier des charges bio fait qu'on n'a aucun problème, aucun désherbant chimique.
Ouais.
Et donc il faut travailler énormément dans les sols pour pouvoir désherber.
Ouais.
Et après, y a moins de production en volume sur un hectare, entre guillemets.
Ouais.
Donc, c'est vrai que le prix de la graine est relativement élevé, entre guillemets, le coût de production de ce jour. Et c'est vrai qu'on a passé une période là, avec la guerre en Ukraine et autres, qui a un petit peu mis à mal le marché des graines bio, en général. Ouais. J'espère que ça va se calmer, ça c'est le commercial qui va parler après. On va revenir à des choses plus stables et plus faciles à lisser.
Ouais.
Et c'est un peu le rôle aussi de notre coopérative, ou notre CUMA. C'est aussi auprès de nous, producteurs, de lisser un peu les effets de yo-yo du marché mondial.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a fait une enquête au dernier conseil d'administration, enfin au dernier AG plutôt. On a quand même réussi à ramener une cinquantaine d'euros la tonne en moyenne sur 10 ans de plus. Auprès de nos adhérents.
D'accord.
Par rapport au négoce
global.
Ouais. Donc, notre coopérative a plusieurs vertus. Elle paye bien les producteurs et elle arrive à faire un produit de très haute qualité.
Qui est apprécié.
Qui est apprécié et qui trouve sa place au milieu des très, très, très gros producteurs d'huile de dimension quasiment mondiale.
Ouais.
Donc nous, on chambre notre président, on lui dit que nous aussi, on a un président qui fait de l'huile. Il est peut-être un peu moins célèbre qu'un autre. Mais
c'est ça.
Bon, on le chambre un peu avec ça.
Je comprends. Et d'ailleurs, donc, on parlait de l'huile par rapport à la cuisine et pas que. Mais vous avez d'autres clients qui sortent complètement de ce domaine-là et qui utilisent vos produits.
Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, nous, on a cet avantage-là. C'est vrai que bon, on a démarré de zéro. On a tout. Il a fallu tout développer et on est présent dans de différents secteurs d'activité. Donc, ça peut être au niveau de la nutrition animale, l'industrie agroalimentaire, de milieu de la cosmétique. Justement,
la cosmétique, comment ça se passe ? On vous commande de l'huile pour faire des produits particuliers, c'est ça ?
Tout à fait, ils s'en servent en fait, comme matière première dans la composition de leurs produits. Même on a, pour anecdote, un fabricant de chaînes de tronçonneuses.
Ah oui, d'accord.
Enfin, de chaînes d'huile pour chaînes de tronçonneuses, pardon.
Oh, okay.
Et qui, la base, c'est une base végétale qui provient de l'huilerie Oléand.
Et ça, c'est votre travail, Julien, d'aller chercher ce genre de partenariat. Peut-être parfois, on n'y pense pas. Ou alors, cette personne-là vous a contacté directement, peut-être ?
Non, ça fait partie du démarchage. Au début, on savait... on a essayé un peu tous les domaines. On a essayé de faire notre place, quoi.
Ouais.
Et puis, c'est venu comme ça, de fil en aiguille. On s'est dit, pourquoi pas que l'alimentaire, donc essayer de creuser un petit peu dans d'autres secteurs d'activité.
Ouais, vous aviez essayé, d'ailleurs, on en parlait un petit peu en off au début, les biocarburants. Aujourd'hui, c'est très compliqué dans ce domaine-là de faire quelque chose.
C'est-à-dire qu'au tout début, on a mis de l'huile dans les tracteurs,
ouais.
Mais pas dans le moteur, c'était dans le réservoir. Et l'idée nous paraissait intelligente, mais il n'y avait pas que nous, les pêcheurs basques aussi.
Ouais.
S'étaient rapprochés de producteurs pour créer du carburant. Bon, très vite, sur le plan un petit peu philosophique, Faire brûler des carburants alors que c'est un produit alimentaire nous a un peu gêné quand même.
Ouais, je comprends.
Et sur le plan économique aussi, même si aujourd'hui le carburant est devenu très cher, c'était pas très tenable, mais ça fonctionnait.
D'accord.
Ça fonctionnait dans nos tracteurs, alors plus les tracteurs de maintenant, mais il y a 15 ans, nos tracteurs, on pouvait intégrer 30, 40, 50% d'huile dans le réservoir et
ah
ça
ouais.
fonctionnait très très bien.
Ah, c'est des proportions qui sont énormes en fait.
Ah oui. Non, mais ça marchait très bien. Aucun souci mécanique. Hein.
D'accord.
Mais bon, de façon éthique, hein,
ouais,
c'est un petit peu compliqué. Quoi.
Ouais.
Un petit peu compliqué.
Quand on est agriculteur, on a aussi envie, j'imagine, dans cette logique de nourrir la population, d'être là pour les autres. Et le fait de faire brûler sa propre récolte...
C'est un peu gênant.
Ouais, c'est un peu gênant. Je comprends. On continue de discuter huile, mais juste avant, on va jouer. Puisque vous n'êtes pas venus les mains vides, qu'est-ce que vous allez faire gagner à nos auditeurs, messieurs?
Donc on propose en fait de faire gagner un coffret avec la gamme conventionnelle, donc une bouteille de tournesol et de colza de la marque Oléande, et la gamme bio, donc un tournesol bio et colza bio marque Ma Petite Récolte.
Ah ben voilà, et bien pour ça, ça va être très très simple. Il faut répondre à une question qui est assez simple finalement. En quelle année a été créée l'huilerie? Tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, hein. On va pas le redire parce que bon, on va quand même voilà, laisser un petit peu de suspense.
Ouais, ouais.
Mais donc on vous attend 05 58 46 50 50. En quelle année a été créée l'huilerie? Tout simplement. On vous attend 05 58 46 50 50.
Bienvenue chez vous sur France Bleu Gascogne.
Et on va accueillir notre gagnante, Elisabeth, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, la question, c'était en quelle année a été créée l'huilerie? Et Elisabeth, quelle est la bonne réponse?
2012.
Eh ben ouais, voilà, génial. Et du coup, vous allez partir avec le coffret. On rappelle ce qu'il y a dans le coffret, Julien?
Oui.
Félicitations, Elisabeth, déjà.
Merci, mais je dois dire que j'ai pas tellement de mérite, outre le fait de vous avoir écouté ce matin, comme d'habitude, Bleu Gascogne. En fait, j'ai accompagné l'entreprise en 2012 pour la création des étiquettes.
Ah,
d'accord, oui.
Ah, génial.
Oui.
Voilà, je suis Elisabeth, je suis aujourd'hui à la retraite, voilà, mais ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, voilà.
Ah, ben également, oui, tout à fait, oui, vous êtes... Oui, parce qu'on s'est pas revus depuis un petit moment, donc...
Ah ben 2012, c'est
oui,
vrai.
Oui.
Ça commence à remonter.
Voilà, bah oui, c'était à cette époque-là, et maintenant je suis à la retraite depuis 2019, donc effectivement, je ne suis plus du tout dans le circuit. Mais je suis ravie d'avoir de vos news, ça me fait plaisir, et puis je suis consommatrice, j'achète.
Ah,
ouais,
c'est
bien, c'est bien.
Il faut acheter, il faut contribuer à l'économie locale, c'est important.
Merci. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans le coffret, Julien, on le rappelle rapidement pour Elisabeth.
Alors il y a en fait toute la gamme, donc il y a un tournesol et un colza en conventionnel de la marque Oléande, et après un tournesol bio et colza bio de la marque Ma Petite Récolte.
Ma Petite Récolte, bien sûr, que je connais bien aussi. Ok, merci beaucoup, je passerai le chercher parce que je crois que c'est un peu lourd, donc je passerai sur mon marteau.
Eh ben voilà, comme ça c'est ok pour vous Julien, pas de problème.
Pas de problème, avec grand plaisir.
Génial. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir appelé ce matin.
Merci à vous tous, bonne journée.
Bonne journée. Eh ben voilà, on a fait une heureuse et c'est rigolo que ça remonte comme ça. C'est la radio,
alors,
c'est la magie de la radio.
Alors Elisabeth, elle nous écoute et elle nous avait torturés à l'époque. Parce que nous, on était des paysans, dans tout ce qu'on connaît de plus facile auprès de la communication. Et elle nous avait torturé les ménages pour nous faire sortir des slogans, des couleurs, des trucs. Et nous, on était assez béotiens dans l'histoire. Là.
Ouais.
Des fois, on sortait de là, on se disait mais c'est logique ce qu'elle nous fait faire. Là. Et je me rappelle, on en a rigolé après. Sur le coup, moyen.
Ouais, parce que... t'es un peu perdu, non, c'est ça.
Oui, complètement.
Oui, c'est un métier, la communication, voilà. D'où l'importance des logos, etc. Et c'est vrai que, bon, voilà, on n'y connaissait pas grand-chose.
Et... Oui, bien sûr.
Toujours pas beaucoup non plus, hein. Mais on a un peu d'expérience.
Oui, voilà, maintenant, il y a 12 années de recul. D'ailleurs, on va parler rapidement, la différence avec les industriels. Comment on fait? On parlait d'un test hors antenne. Eric, est-ce qu'on peut en reparler?
Oui, alors au tout début, pour démontrer que notre huile, elle avait une qualité quand même,
ouais.
Il était difficile de la faire goûter comme ça, brûle pour point.
C'est vrai.
Allez, vas-y, mon gars, goûte. C'est moyennement sympathique. Mais par contre, on mettait dans deux petits bouchons, on mettait un petit peu de notre huile et de l'huile industrielle classique. Et on faisait tremper le bout du doigt dans chacun d'un bouchon, là. Et on levait le doigt. Et on disait aux gens, regardez ce qui se passe. Alors au début, ils regardaient. Et puis, ils voyaient que dans l'huile industrielle, l'huile quasiment coulait, quoi,
ouais.
Du doigt. Tombé régulièrement,
très liquide.
Et le nôtre, vraiment, ça perlait. Donc la différence était notoire visuellement, et on expliquait que la viscosité de nos huiles était 10 fois supérieure à celle qu'on pouvait constater dans l'industrie, et que donc avec moins de quantité dans les plats, on faisait le même effet que des huiles industrielles.
Ah,
et Julien l'explique au niveau technique, nous on sort des graines en pression à froid,
ouais.
Donc dans les tourteaux il reste encore de l'huile.
D'accord, ouais.
Chose que les industriels ne font pas, ils enlèvent tout. Et ils remélangent ce qui restait dans les tourteaux avec de l'huile. Enfin, c'est de la chimie, quoi.
Ouais.
C'est plus, nous, c'est du produit extrêmement naturel. Qu'il soit en bio ou en conventionnel, les process sont les mêmes, quoi.
Et Julien, d'ailleurs, on parlait de ça. Les tourteaux, donc il y a encore de l'huile. Comment font les industriels pour pouvoir extraire ces 10% encore qui restent?
Oui, alors après, c'est des techniques qu'on appelle de raffinage. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont chauffer, mettre un solvant, c'est de l'hexane. En fait, c'est un dérivé de l'essence, il faut le savoir.
Hein. D'accord.
Donc, c'est pas très, très bon. Pas dingue, ouais. Pour extraire, nous, nos tourteaux, ils sont entre 12 et 15% de matière grasse. Eux, leurs tourteaux ressortent après ce traitement-là aux alentours de 3% de matière grasse. Donc, ils vont aller chercher 10 points. Alors, pourquoi? Parce que dans une trituration, dans un pressage, la partie noble, ben, c'est quand même l'huile, là où on a la meilleure valeur ajoutée. Du coup, voilà. Et alors, après tout ça, ils vont faire un traitement, ce qu'on appelle le raffinage. Donc, en fait, ils vont aseptiser totalement l'huile, même si, par exemple, les graines ne sont pas de très bonne qualité au départ, avec tous les produits chimiques, en fait, ils vous l'aseptisent. Ils la sortent, vraiment, c'est un goût neutre, voilà, ouais. Celle qu'on rencontre dans le commerce, neutre, sans goût. Nous, voilà, s'il y a le moindre souci au départ sur la graine, c'est fichu, puisque c'est une pression mécanique uniquement infiltrée, il n'y a pas de produit.
Il n'y a pas d'intervention derrière.
Non.
La première fois qu'on a extrait de l'huile, on nous avait annoncé quelques soucis. Hein. On nous avait dit, votre huile, elle a des vertus, mais elle n'est pas commerciale. Parce que justement, elle pue.
D'accord.
Enfin, on nous le disait un peu comme ça. Hein. Et elle est très forte en goût, et donc ça passera pas. Et c'est vrai que quand on a fait nos premiers essais, on voyait l'huile sortir. Déjà, elle avait de la couleur. Ben, vous voyez, les couleurs, elles sont naturelles.
Ah,
hein. On touche à rien. Et surtout, l'odeur que ça dégageait, quoi. C'était vraiment très, très fort. Et je vous avoue qu'on se disait, peut-être que nos conseilleurs, là, ils ont peut-être raison.
Ouais.
Et puis finalement, non, ben, c'est une qualité. En fait, c'est un produit noble, quoi.
Ouais.
Donc, il a une personnalité, il a une couleur, il a un goût. Et c'est là-dessus que ce produit est apprécié, quoi.
Ouais,
c'est vraiment pas neutre.
Ouais, d'accord. On continue d'en discuter de tout ça, puisqu'il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet-là. Et aussi sur le sujet des farines qu'on va aborder juste après ça.
Bienvenue chez vous sur France Bleu Gascogne.
Bienvenue chez vous, toujours avec Julien et toujours avec Eric. Et on a parlé de l'huile, mais il n'y a pas que de l'huile, Eric, parce qu'il y a aussi du blé, de la farine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ça?
Alors, pas content d'avoir créé une huilerie.
Ouais.
Il y a quelques sauvages qui se sont mis dans la tête de créer une meunerie.
D'accord, dont vous faites partie?
Non, je fais partie. Alors, je ne fais pas partie des plus jeunes, vous aurez bien compris. Hein. Et on est 17 adhérentes et adhérents. Et on a créé ce projet il y a déjà 3-4 ans qu'on y bataille fermement. On a eu quelques déconvenues, quelques problèmes de matériel, de montage et autres.
C'est le jeu, c'est le
normal,
jeu.
Sinon ça serait pas rigolo. Mais là, du coup, ben, à côté de Protéol, on a créé une kuma qui s'appelle Harry Blanc. Farine okay. blanche en occitan, donc c'est facile à comprendre.
Okay.
Et on a fait ce dont la dame parlait tout à l'heure. Là, on a créé une marque qui s'appelle Faire du Blé.
D'accord.
Et donc, la farine landaise va s'appeler Faire du Blé. On doit mettre en route les moulins. Allez, on va croiser les doigts pour le mois de mai. Donc là, dans les quelques jours qui vont venir.
Ah oui, donc là, c'est là, on est...
Là c'est... Alors, on est un peu fâchés pour dire des dates, parce qu'on avait promis à tous nos clients bénévoles et heureux essayeurs de farine en essai comme ça, là, qu'on allait démarrer très vite. Et puis finalement, on a patiné un an de plus, parce que ça a l'air de rien, mais c'est complexe.
Ouais.
Et là, normalement, si tout va bien, au mois de mai, on va faire les premiers tours de moulin.
Ah.
Donc après, il y aura la mise en place, la mise en route, les réglages.
Bien sûr.
On ne donnera pas de mise en marché très vite encore, mais Bon, on est prêt.
Le mois de mai, c'est dans 10 jours.
Ça sent bon. Ça sent bon.
Et donc voilà. Après, on pourra trouver ces produits peut-être à la fin de l'année qui arrive.
Oui, je pense qu'à la fin de l'année, on va être en mesure de bien travailler. Alors, on avait déjà, au travers des AMAP, vous savez, on avait déjà fait pas mal de tests avec un vieux moulin et notre papy d'ourte du côté de Tartas, là-bas. On avait fait des essais sur nos blés fermiers. Et ça c'était bien perçu par nos clients.
OK.
Et donc là ils sont en attente de la future farine va arriver. Je vous cache pas que nous aussi on est en attente de la produire. Mais bon, là, ça sent bon. On va bientôt démarrer.
Quoi. Et ça sera à destination des professionnels, des particuliers.
Alors le nerf de la guerre de cette construction de projet, c'était de faire de la farine landaise mangée par des Landais.
D'accord.
Alors, n'aime pas qu'on soit extrêmement chauvert, mais un tout petit peu quand même.
Un petit peu quand même.
Et on avait fait un business plan comme ça pour une simple raison un peu mécanique, c'est que la farine n'est pas un produit très cher à la base. Le kilo de farine n'est pas très cher. Et il nous semblait complètement aberrant de lui faire traverser la moitié de la France ou la France tout entière. Le coût du transport coûtait plus cher que la farine.
Ce qui était plutôt logique au final.
Donc, on avait essayé de définir comment on pourrait imposer notre farine landaise auprès des Landais, boulangers, collectivités... Ouais. Particuliers, les AMAP et autres. Bon, on n'aura pas une productivité énorme, puisque notre objectif serait d'arriver à peu près à 200 tonnes de farine.
Ok.
C'est conséquent, mais c'est quand pas même. Non plus les moulins de Paris, par exemple. mais le truc, c'est que je pense que notre produit localement n'existe pas. Il n'y a pas d'équivalent, à part quelques producteurs indépendants.
Ouais.
Mais dans ce volume-là et avec cette façon de procéder, il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui. Et on le voit, on en parle dans l'huile, dans les productions fermières quelconques. Il y a une demande locale de produits fermiers quand même ou de produits locaux extrêmement bien ciblés.
Ouais.
Et je pense qu'on va répondre à une demande.
D'accord. Eh ben, on est très curieux de voir ça. On continue d'en discuter ce matin. On discute de l'huile, mais on discute aussi du blé, de la farine avec Eric et Julien.
Bienvenue chez vous sur France Bleu Gascogne.
Et dans Bienvenue chez vous, on est avec Julien, on est avec Eric de l'huilerie. L'huilerie Oléante, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Je vais réussir à le prononcer correctement avant la fin de l'émission. Et puis, faire du blé, c'est ça, la structure et le nom?
La Cumari Blanc.
Voilà. On a toujours un moment dans l'émission où on met en avant quelqu'un, du moins l'invité met en avant quelqu'un, le coup de cœur de l'invité. Là, c'est carte blanche. Julien, qu'est-ce qu'on met en avant?
Alors moi, je pensais à la cave de Pierre, donc qui est à Souston. C'est un caviste qui est passionné par son métier. Quand vous y allez, en fait, vous avez envie de tout acheter, donc autant en vin, il a des spiritueux, etc.
Ouais.
Et ce qui est très intéressant, alors il y a bien sûr le conseil par rapport à l'accompagnement du mets, mais également il vous raconte l'histoire derrière du viticulteur, du domaine. Voilà, donc je voulais le mettre un petit peu en lumière aujourd'hui.
D'accord, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, on est sur la dernière intervention un peu avant 11h. Où est-ce qu'on peut retrouver les produits, les événements à venir, tout ça, dites-nous tout.
Alors, on peut nous retrouver dans les commerces ici localement, donc dans des grandes surfaces, des magasins de producteurs, sur les marchés, dans des AMAP. Okay. Voilà, ça c'est pour
un peu partout,
un petit peu partout. Ouais.
L'épicerie à Saint-Laurent-les-Mines.
D'accord, ok.
C'est sur les rayons.
Tout à fait. Après, voilà, oui.
Les producteurs, il y a pas mal de producteurs qui sont en vente directe.
Ouais.
Producteurs de foie gras, de poulet ou autre. Et ils vont sur les marchés. On se fait pas de concurrence. Au contraire, plus on est nombreux à présenter l'huile et meilleur c'est pour et le producteur et la structure.
D'accord. Et voilà. Du coup, on peut aussi vous retrouver peut-être sur des marchés de producteurs aussi, oui. J'imagine, justement, dans cette logique-là. Il y en a quelques-uns à venir. Peut-être vous avez quelques dates à nous donner ou pas?
Là, moi, j'ai pas de...
je vous ai posé une colle.
J'avoue.
Partout, on est partout.
Partout. Mais c'est ce qu'on va retenir de tout ça. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Julien, merci Eric d'être passé.
Merci à vous.
Et de toute façon, ça sera à retrouver en podcast sur le site de France Bleu Gascogne. Bonne journée, messieurs.
Bonne journée.